souhaitais interviewer Jean-Charles Massera parce que ces textes qu'il a écrits et qu'il a édités chez POL offrent plusieurs possibilités de lecture et que nous sommes à la frontière de la littérature. Voilà pourquoi je souhaitais l'interviewer. Alors merci beaucoup Jean-Charles Massera d'être avec nous au téléphone. Et donc je vais commencer par une première question qui va concerner donc ce livre édité maintenant en 2002 chez POL, United Emmerdement of New Order. Je voulais tout d'abord vous interroger sur le dispositif textuel, ce libre jeu de questions et de réponses.
Ouais, ce texte a d'abord été il a fini par sortir sous la forme d'un livre, mais c'est un texte qui est en fait une réponse à une commande théâtrale. D'accord. Il a été pensé pour la scène. Il fonctionne beaucoup mieux sur scène que sur la page. Et disons que on a décidé de le publier dans un petit peu comme un prologue de United Emmerdement of New Order. Ce texte question-réponse qui en fait s'appelle United Problems of Coût de la Main-d'œuvre et qui fait entendre une dimension qui n'apparaît absolument pas, qui ne peut pas apparaître dans la structure même de ce que j'écris habituellement, publié dans le cadre d'un livre, parce que ça travaille exclusivement la prosodie médiatique, on va dire, pour aller vite. Et donc ça ne pouvait se travailler qu'avec des voix qu'on entendrait soit à la radio dans l'idéal, soit faute de mieux sur une scène théâtrale. Donc le petit texte qui inaugure United Emmerdement of New Order est en fait totalement indépendant, même s'il travaille les mêmes questions, on va dire pour aller vite, l'instrumentalisation des corps et des consciences par le capitalisme ambiant. Et ces effets dévastateurs au quotidien, retranscrits dans la langue du vécu, entre guillemets. Mais ce livre est composé en fait, de deux travaux qui n'ont fondamentalement rien à voir l'un avec l'autre, quoi. L'un, il est pensé pour la page, et l'autre est pensé pour la radio, point.
Très bien.
Donc, ma contradiction, c'est de l'avoir publié en livre, je sais.
Non, c'est absolument aucune contradiction, parce que United Problem of Coût de la Main-d'œuvre fonctionne très très bien, enfin à mon sens, pour moi, qui le connais uniquement en tant que texte lu et non pas en théâtre, pour moi il fonctionne complètement. Et alors là, tu emploies le terme de prosodie médiatique. J'aimerais bien que tu en dises un peu plus long de prosodie médiatique, parce que là on tourne vraiment autour de notions politiques pour ce texte.
Pour moi, la prosodie médiatique, c'est tout simplement cette espèce de rumeur qui est censée dire le monde contemporain, ou tout du moins nous informer de son état heure par heure, voire minute par minute, et qui finit par pénétrer nos consciences, peu ou prou, qu'on le veuille ou non. Donc ça fait partie des, non pas des ennemis à abattre, mais en tout cas des ennemis à prendre en considération quand on travaille un tant soit peu, peut-être pas de manière politique, mais de manière, on va dire, de manière à prendre un petit peu de distance analytique et critique par rapport aux machines de destruction de sociale, des subjectivités, aux machines qui instrumentalisent, comme je disais tout à l'heure, nos corps et nos consciences. Et donc la prise en compte de cette prosodie médiatique, ce qu'on entend à la radio, ce qu'on entend à la télévision, parce que la télévision, d'une certaine manière, donne plus à entendre qu'à voir. Les images viennent presque comme fond visuel par rapport à ce qui est dit, ce qu'on entend, en tout cas surtout lorsqu'il s'agit d'actualité ou d'émissions dites documentaires. Le sens rentre d'abord par le son, semble-t-il, et l'image est une espèce d'élément beaucoup moins signifiant. Donc, à partir du moment où, en tout cas en ce qui me concerne, je me positionne plus par rapport à des questionnements que par rapport à des genres artistiques, littéraires, dans lesquels il faudrait œuvrer ou inventer. Je me positionne plus, enfin j'essaie en tout cas, par rapport à ce qui me semble pouvoir encore aujourd'hui constituer un enjeu dans le surplan esthétique, que politique ou anthropologique, culturel ou social. Une des formes dans lesquelles il me semble qu'il est urgent de travailler, c'est celle de la, voilà, de la prosodie médiatique.
Alors, je souhaiterais revenir un peu sur cette prosodie médiatique. Est-ce que la manière dont tu l'utilises, dont tu fais des textes avec, et là c'est plutôt sur une IT d'emmerdement of New Order, qui est uniquement un texte qui n'était pas pour le théâtre, donc qui est au niveau de sa forme est fait pour être lu. Est-ce que c'est pas une utilisation du bruit de fond, de ce bruit de fond médiatique que tu essayes de faire ressurgir par le texte visible ?
Non, pour le coup, non, parce que United Emmerdement of New Order, s'il travaille une matière, on va dire, médiatique, c'est le froid du nord de l'Europe qui commence à me saisir, s'il travaille une dimension donc médiatique, c'est pas du tout la dimension sonore, c'est pas du tout la dimension, qui passe par... par la radio ou l'écran, mais qui passe par les dépêches d'agence, qui elles sont écrites. Il n'y a absolument pas de son dans United Emmerdement of New Order. Il n'y a que de l'écrit. Détourné, mais où on n'entend rien. Il se dit des choses, il lit des choses, comme on dit, on croit dire ou lire des choses en lisant une dépêche qui vient de tomber. Sur les téléprompteurs écrites par telle agence ou telle autre, ou par la plume un peu plus analytique et distanciée d'un ou d'une journaliste d'un quotidien ou d'un magazine. Mais United Emmerdement of New Order travaille fondamentalement que de l'écrit, pas du tout d'oral.
D'accord.
Il n'y a aucune oralité dans United Emmerdement of New Order.
Tout à fait, donc il n'y a pas de bruit de fond, donc.
Pas du tout.
D'accord.
Alors, il y a la rumeur, on peut parler de rumeur du monde au sens second degré. Puisqu'il paraît qu'en littérature, l'un des enjeux fondamentaux, c'est de travailler contre le bruit et la fureur, si j'ai bien lu mes classiques. Dans ce sens-là, oui, il y a bruit et fureur, mais pas au premier degré. Et moi, j'aime mieux le premier degré que le second. Donc, il n'y a pas de rumeur, premier degré, ou de bruit de fond du monde dans United Emmerdement.
Alors, par rapport à cette question, je rebondis sur le premier, le second degré. C'est un texte qui peut se lire tout de même à des degrés différents, parce qu'il rentre une notion de comique assez incroyable. Enfin, le comique rentre avec même beaucoup de fracas dans ce texte. Mais c'est un comique dramatique, ça, parce que ça concerne le quotidien des personnes.
Disons que c'est une dramatisation par l'absurde. Même si l'actualité me donne malheureusement de plus en plus tort, l'actualité sociale et politique française en tout cas, de ces derniers mois, et fait tout d'un coup, me semble-t-il, terriblement vieillir United Emmerdement of New Order, qui était publié en 2002 et écrit en 2001, sur le mode presse de science-fiction politique. Mais disons que, pour moi, il s'agissait de dramatiser jusqu'à l'absurde, jusqu'à ce que soit révélée une barbarie, j'ai envie de dire intrinsèque, la manière dont on nous contraint à vivre ou d'où l'on vit l'actualité sociale et politique, locale ou internationale qu'on nous sert. Je prends un exemple un petit peu précis pour que ce soit peut-être plus parlant pour les auditeurs. J'essaye de consigner certains faits entendus et lus par tous à une époque donnée, en tout cas à un moment donné où j'écris le livre, à l'époque où j'écrivais United, Emmerdement of New Order, où il avait été question très récemment de l'expulsion musclée des sans-papiers à l'église Saint-Bernard à Paris. Il était question, évidemment, il est toujours question de l'occupation par la force des territoires occupés en Palestine. ou de manière plus moins militaire et plus violente sur le plan économique de l'arrivée massive des entreprises d'Europe de l'Ouest ou américaines dans l'ex-Europe de l'Est. Je me suis ensuite appuyé sur non seulement sur des dépêches relatant cette actualité, mais aussi j'ai fait fonctionner ces dépêches avec la loi qui organise le travail, à savoir le code du travail ou l'organisation, la gestion de la propriété, le code de la propriété, le code de déontologie de l'armée, de la gendarmerie nationale, les textes, les recueils de témoignages pris par certaines ONG au sujet de certaines exactions ou certains faits d'armes ou faits policiers laissant généralement pas la parole aux victimes et en essayant de consigner cette parole des victimes. Et puis, une fois que j'ai relevé toute cette matière bien textuelle, je l'ai fait fonctionner ensemble, mais pas à des fins esthétiques, pas ni à des fins de faire rire ou à des fins burlesques. Disons qu'en en confrontant cet existant ou ces représentations d'existant qui s'originent à chaque fois dans des logiques et surtout des intérêts contradictoires et opposés, c'est-à-dire que ce qui existe pour la victime n'est évidemment pas ce qui doit exister ou ce qui existe pour l'entreprise ou pour l'actionnaire ou pour le politique. Mais en faisant confronter ces différentes représentations et projections, en fait, on construit un réel qui, de fait, révèle son ignominie, sa barbarie et son absurdité. Et le rire vient de là, malheureusement. Il vient de cette confrontation de matériaux hétérogènes et de relations au monde totalement contradictoires.
Oui, tout à fait. Et c'est là où du coup, on rejoint ce que tu as dit tout à l'heure sur la science-fiction politique.
Oui, c'est-à-dire où bon, j'ai peut-être un petit peu lancé ça de manière un peu non pas cavalière, mais un petit peu développée. Mais
oui, c'est un peu brutal, mais c'est un terme qui signifie bien, un peu le projet de United Emmerdement of New Order, de cette science-fiction politique.
Oui, mais j'avais vu d'une manière malheureusement moins tragique que mon avis peut se lire aujourd'hui, c'est-à-dire que. En gros, une des clés de ce travail, enfin un des projets, une des idées fondatrices, enfin qui était à la base, fondatrice c'est un peu lourd comme terme, mais qui était à la base de ce livre, de ce projet de travail, c'était, pour le dire vite et simplement, de rabattre l'actualité internationale du lointain, en tout cas qui était perçue comme telle ici et maintenant à l'Ouest, en Europe de l'Ouest, ici et maintenant en Europe de l'Ouest, c'est-à-dire peut-être pour prendre un petit peu conscience de ce que peuvent vivre simplement ce qu'on perçoit comme des figures de l'actualité, en l'occurrence par exemple les Palestiniens des territoires occupés, j'essayais ou les populations qui étaient en perpétuel mouvement d'exil, de rabattre les faits consignés par l'AFP et Reuters chez nous. C'est-à-dire, tout d'un coup, ce ne sont plus les populations de telles régions d'Afrique qui sont déplacées, mais ce sont les populations de telles régions d'Europe qui sont déplacées. Elles ne traversent plus l'Atlantique ou la Méditerranée, mais le lac Léman, par exemple. Donc au début, tout ça est très drôle. Parce que la manière dont c'est raconté discrédite effectivement le fait qui n'est plus avéré, qui ne peut pas se passer chez nous, évidemment, c'est ça qui rend la chose drôle. Sauf que ce qui devient moins drôle, c'est quand on voit l'actualité politique et sociale, et surtout politique et policière de ces derniers mois en France, malheureusement, ce qui est raconté dans United Emmerdement au New Order quant au je vais pas employer le terme rafle, mais on va dire quant au traitement de la politique dite migratoire, elle est malheureusement terriblement d'actualité et terriblement plus fictionnelle aujourd'hui. Parce que j'ai l'impression, quand je lis les dépêches de Reuters aujourd'hui, racontant une descente policière, j'ai l'impression de lire United Emmerdement of New Order. Sauf que là maintenant, c'est pour de vrai, comme diraient les enfants.
Alors on va quitter cette dimension politique grave pour le texte lui-même, c'est-à-dire quel enjeu textuel il y a derrière un IT emmerdement of New Order. Donc toi, Jean-Charles, tu parles plutôt d'enjeux esthétiques plutôt que d'enjeux littéraires.
Oui, mais en même temps, pas forcément dans le sens où on les entend. C'est-à-dire que pour moi, il n'y a pas d'enjeu esthétique indépendamment d'un enjeu qui s'épaissit d'une dimension politique, culturelle, sociale, historique. Il n'y a pas d'enjeu interne à la littérature ou à l'art. Il n'y a que des travaux qui peuvent avoir à un moment donné notre histoire au sens le plus large et pas simplement le plus restreint qui serait l'histoire littéraire ou l'histoire artistique du sens. Moi, ce point de vue-là, je suis très benjaminien pour parler un petit peu comme un universitaire. Donc quand je parle d'enjeux esthétiques, ce ne sont pas des enjeux esthétiques désindexés des conditions historiques au sens le plus large qui soit, dans lesquelles ces enjeux naissent et s'origine. Ça, pour moi, c'est très important. Donc, d'une certaine manière, le projet... Il n'y a pas de projet textuel dans United Emmerdement of New Order ni dans aucun des travaux que j'ai produits jusqu'à maintenant. Tous les textes, quand il s'agit de textes ou toutes les pièces sonores, si j'ai des travaux pour la radio, pour la scène, de manière plus large, pense, j'ai envie de dire, presque en forme élargie. L'histoire littéraire ne m'intéresse absolument pas, l'histoire de l'art encore moins, a fortiori quand elle s'écrit que par rapport à l'évolution de son propre médium ou de ses propres formes et couleurs. Tout ça me semble bien pauvre et bien insignifiant. Donc quand je parle d'enjeux esthétiques, c'est pas pour me démarquer nécessairement de la littérature, même si pour moi ça a été une question vitale de sortir de l'histoire dite littéraire, en tout cas l'histoire française, c'était la condition sine qua non pour commencer à travailler, mais également de toute histoire, de tout champ qui serait replié sur des seuls préceptes esthétiques au sens traditionnel du terme, quoi.
Alors, ma prochaine question, on va continuer sur ce sujet-là. United Emmerdement of New Order est un texte. Un texte fait pour être lu, pas un texte fait pour être joué, ou pas un texte fait pour être montré dans une exposition. C'est un texte qui est publié par POL, qui est un éditeur avant tout de littérature ou de poésie. Comment tu t'en sors de tout ça par rapport à ce qu'on pourrait appeler la création littéraire actuelle ou la création de littérature expérimentale?
Ben, je ne sais pas si je m'en sors, mais disons que je ferai la même réponse qu'on peut faire quand on veut embarrasser un ou une artiste ou un ou une commissaire d'exposition et qui nous dit « Bon, d'accord, mais tout ça, en quoi c'est de l'art ?» Ou alors, en même temps, vous nous dites ça, mais vous l'exposez dans un musée ou dans une galerie. Ben, je ferai la même réponse pour la littérature, c'est-à-dire que cet objet, cette machine-là, elle ne pouvait pas être, selon moi et selon un principe de réalité, montrée, diffusée, publiée en l'occurrence, ailleurs. De la même manière qu'il y a des choses qui ne peuvent se dire que dans le champ de l'art au sens large ou que dans le champ du livre avec l'étiquette littérature. C'est aussi simple que ça. Je veux dire, il n'y a aucune autre raison. C'est-à-dire que à partir du moment où je travaillais une matière textuelle, à partir du moment où je travaillais quelque chose, on va dire, qui ne s'inscrivait pas dans une logique de littérature de divertissement ou commerciale ou de littérature destinée à garnir les sapins de Noël, ben, je ne pouvais me retrouver que... Je pouvais m'entendre qu'avec un certain nombre de personnes qui pouvaient publier ce genre de choses, de même manière qu'à des artistes qui ne travaillent pas dans le sens de la décoration des cheminées ou de travaux extrêmement académiques et décoratifs ne peuvent se retrouver que dans certains centres d'art contemporain dans le monde, certains musées, et de fait ils se retrouvent là, donc effectivement dans la sphère séparée de l'art, au sens large, mais parce qu'il n'y a que là que les choses peuvent s'énoncer, se dire et se montrer, parce que le reste des supports, les autres supports n'en veulent pas, c'est aussi simple que ça.
Alors toi, comment est-ce que tu te définis, ou comment est-ce que tu définis ton travail? Parce que tu te définis pas comme écrivain, tu te définis pas comme poète, est-ce que tu te définis comme artiste alors, ou est-ce que pas du tout?
Non, je travaille... Pour la sécurité sociale, je suis auteur.
D'accord.
C'est à peu près la seule définition que je sois forcé de donner. Voilà, parce que je perçois assez de droits d'auteur pour en faire partie, et surtout beaucoup plus qu'avec mes autres activités. Donc je suis obligé d'être auteur. Mais à part ça, je n'ai aucune... je sais pas, je me pose même pas la question. Par contre, si on me dit vous êtes écrivain, romancier, si vous êtes, enfin peut-être écrivain, je veux bien, à la limite, parce que parmi les choses que je fais, il y a plus de choses qui passent par l'écriture, mais l'acte mécanique, hein, d'écrire. Donc je veux bien entendre ce terme parce qu'il correspond effectivement à une pratique au sens, encore une fois, au premier degré. Après, quand on commence à affiner un petit peu la définition, généralement, je botte en touche parce que romancier, c'est faire des romans, écrire des romans. Poète, c'est faire de la poésie. Enfin, bon, moi, ce sont des choses qui... C'est même pas que ça m'intéresse pas. Je suis tellement loin de tout ça que... Ouais, pour moi, la question est sans objet. Donc, je sais pas à me définir. Il se trouve que la majorité de mes travaux passe par l'espace du livre et la forme du livre. Donc, je fais des livres, point. La définition de qui fait des livres ou ce type de livre, même pas qu'elle est secondaire, pour moi, elle n'a pas de sens. La seule chose qui a du sens, c'est le travail.
D'accord.
Qui est produit.
C'est une excellente réponse. Alors, j'aimerais enfoncer le clou. De qui te sens-tu proche actuellement, qui touche au domaine littéraire, ou qui écrit des livres?
Ça, c'est une question pénible.
D'accord, très bien.
T'es
pas obligé,
t'es
pas obligé d'y répondre dans ces cas-là.
Parce que de fait, je vais y répondre un peu autrement. Ce que je fais dans l'espace du livre, ou ce que certaines personnes que je lis ou que j'arrive à lire ou que j'aime bien lire aujourd'hui font, on va dire, je vais citer des noms, comme ça je vais me mouiller, de Patrick Bouvet à Lydie Salvert, en passant par Eric Arlix ou éventuellement Pena Hanshin ou Nicole Brossard d'une autre manière, un petit peu au Canada, qui est d'une toute autre génération. Ce sont des affinités, j'aimerais dire presque limitées, et qui n'ont pas plus de sens que celles que je pourrais trouver avec d'autres personnes qui travaillent dans d'autres formes. Ce que je veux dire par là, c'est que, en gros, mon travail, vous le mettez dans le cadre d'une exposition d'art contemporain qui expose certains travaux assez significatifs, signifiant aujourd'hui une grande exposition internationale, genre la Documenta. Nos travaux dits expérimentaux, perçus comme des ovnis, pour reprendre l'expression qu'avait initié Olivier Cadio et Pierre Alféré lorsqu'ils avaient créé la revue de littérature générale et comparée, ce qui paraît, qui passe pour des ovnis, puisque c'est un petit peu comme ça qu'on définit nos travaux à chaque fois qu'on en parle dans la presse, la presse dite un petit peu spécialisée, on va dire, est atrocement banal dans le champ de l'art contemporain un peu avancé. Enfin, je veux dire, je dis ça sans coquetterie. C'est-à-dire que c'est parce que la représentation qu'on a de la littérature est terriblement vieille et a plus d'un siècle de retard, que nous, les 4-5 zozos par an qui sortent des livres, qui font pas bouillon de culture, pour aller vite, c'est pas nous qui sommes en avance, c'est les autres qui sont en retard. Je veux dire, vous transposez ce qu'on fait dans le champ de l'art, vraiment, nous ne sommes qu'une des propositions parmi les 150 de l'exposition. Parce que ça fait longtemps qu'on ne s'est plus posé des questions de genre, des questions de forme, des questions de... Enfin, ça fait longtemps qu'on travaille et qu'on n'en aille pas à ressasser l'avant Baudelaire ou Mallarmé, où on en a encore à trouver absolument exceptionnel dans les colonnes de journaux que je ne nommerai pas, que ce travail n'est ni vraiment un essai, vraiment un texte, ni vraiment... C'est pas vraiment de la poésie, ni un roman, mais il est en brique. Enfin bon, on ne sait pas ce que c'est, mais on sait pas... On sait que ça n'est ni ça, ni ça, ni ça. Mais ça fait longtemps que c'est plus le problème. Ça fait vraiment longtemps, ça fait plus de 130 ans. Donc, ce que je veux dire par là, c'est que je vais me sentir proche de certains travaux qui peuvent prendre la forme de travaux vidéo, la forme de travaux utilisant le livre. Je sais pas, je pense à un livre publié par un artiste qui s'appelle Claude Kloski, qui s'appelle Mon Catalogue, où il s'est réapproprié en utilisant le jeu quasiment tout le catalogue de la Redoute ou Quelle.
Tu en parles dans
la forme d'un livre.
Tu en parles dans Amour, Gloire et CAC 40.
Oui, tout à fait. Et qui pour moi est. Alors, il n'est pas consigné, il n'est pas considéré comme écrivain parce qu'il a sorti son livre avec le concours d'un centre d'art. Mais en tant que livre, ça m'intéresse 150 fois plus que la plupart des bons auteurs qui sortent cette année. Alors, je veux dire, ça me semble tellement plus en phase avec ce qui peut constituer un enjeu aujourd'hui que le tout venant culturel. Que de ça, je me sens plus proche. Et Claude Kloski, quand il a écrit ou conçu mon catalogue, il s'est jamais posé la question de savoir s'il était artiste, écrivain, graphiste. Enfin, ça n'est vraiment pas le problème. Donc la question non seulement du champ littéraire et de son appartenance ou l'écart qu'on peut prendre avec lui me semble terriblement obsolète, mais la question de la littérature et de l'écriture même me semble, c'est même pas qu'elle est obsolète, elle a... je peux pas me définir par rapport à quelque chose que je ne reconnais pas. Je ne reconnais absolument pas ce champ-là. Et non pas par, ça peut passer pour du mépris ou par dédain, mais parce que, en tout cas, l'histoire, moi, des problématiques, des enjeux que je me suis construit, elle s'est plus faite dans un rapport que j'ai commencé à construire avec l'histoire de l'art de ces 30 dernières années ou 40 dernières années, on va dire, qu'avec le champ littéraire qui me semble terriblement pauvre par rapport à ce qui s'est énoncé en art dans ces 30 dernières années. C'est d'ailleurs pour ça que j'ai arrêté un petit peu de lire, pour dire les choses franchement. Et j'ai commencé beaucoup à... J'ai cherché à voir où ça s'inventait, et je suis tombé sur certaines expériences qui étaient montrées, exposées dans des musées. Donc je me suis renseigné, j'ai appris que ça s'appelait l'art contemporain. Et que dans l'art contemporain, comme dans tout, il y a 99,99% des choses qui sont bien peu signifiantes. Et puis il y a ce micro pourcentage qui est le truc qui va tout d'un coup être extrêmement parlant pour vous, significatif, et vous sentez que c'est là que ça s'invente et c'est là que ça parle et vous allez vers ça, quoi. Et là, on est très très loin des petites questions littéraires.
Effectivement. Et ben merci beaucoup Jean-Charles Massera d'avoir répondu à mes questions.